Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, c'est la suite du podcast consacré à la littérature érotique, les lectures érotiques de Charlie. Alors, cette semaine, aujourd'hui, je vais vous lire des extraits d'un livre, un roman érotico-policier, je dirais, qui s'appelle Le Cave du Vatican, qui est écrit par Étienne Liebig et qui est publié aux éditions La Musardine. Il y a un petit côté San Antonio dans ce roman, un petit côté même pastiche de San Antonio ou pastiche de polar, avec une bonne dose de truculence, de cul et de bouffe, ça n'arrête pas. Voilà. Alors, des personnages très très hauts en couleur. Du coup, on va faire justement connaissance. On attaque le début pour les extraits, ça va être le début du roman, histoire de faire un petit peu connaissance avec les deux protagonistes principaux, à savoir la capitaine Lorna Vajda, une fliquette qui a trouvé comme moyen irréfutable de faire craquer les suspects, eh bien, la séduction et le sexe. Et puis, Pierre-Paul Glossu, sacré baraque à glace, sacré armoire à glace, pardon, et qui manie l'argot comme personne. Allez, c'est parti. Extrait de Le Cave du Vatican. C'est écrit par Étienne Liebig et c'est paru aux éditions La Musardine. Monsieur le commissaire, ce matin-là, Lorna passa quelque temps entre la salle de bain, l'armoire de sa chambre et le miroir du salon. Elle essaya une dizaine de fringues, robes, gilets, talons, jupes, corsage, bottines, futales serrées, chemises, baskets. Elle opta non sans remords pour une tenue de baroudeuse, blouson de cuir et bottes, mais avec un maquillage avantageux, puis se rendit au commissariat pour l'accueil du nouveau patron. Lorsqu'elle arriva dans la grande bâtisse impersonnelle et moderne, ses collègues avaient déjà préparé un petit déjeuner café croissant et discutaient de choses et d'autres. Lorna se joignit à eux en évitant de croiser le regard de Margelin, quand soudain la porte du bureau du commissaire s'ouvrit sur le nouveau boss. C'était un petit bonhomme, un peu bedonnant, qui avait dû oublier l'usage des zygomatiques. Sa bouche semblait paralysée, lèvres vers le bas, ses yeux étaient petits et méfiants. Il y eut un long silence, puis le nouveau commissaire s'exprima directement, sans formule de politesse et sans remerciement pour la petite fiesta du matin, en regardant la petite troupe. « Un commissariat, c'est un bateau. Dans un bateau, il y a un capitaine. Ici, c'est moi. Parfois j'ai tort, parfois je suis injuste, mais manque de peau, je suis le capitaine. Vous comprenez ?» Tous comprenaient. Alors, je suis responsable de chacun d'entre vous, et je n'aime ni les débordements, ni les excès, ni les bavures. Vous comprenez ? Tous comprenaient. À partir d'aujourd'hui, on oublie les petites combines, les tutoiements aux indiques, les pressions et les bières au bar. Vous comprenez ? Tous comprenaient. Le patron continua un quart d'heure sur ce ton, puis conclut son discours. Je m'appelle Schiaffri, Ange Schiaffri. Et j'aimerais voir la dénommée capitaine Vajda dans mon bureau dans 3 minutes. Ça lui laisse le temps de terminer le café et de laver les tasses. Lorna sentit un curieux tremblement de sa main droite, le genre de tremblement qui se finit toujours par une mandale. Son collègue Garcia la retint discrètement en lui soufflant à l'oreille. « Laisse tomber Lorna, il apprendra à te connaître et je vais faire la vaisselle, ma belle. » 3 minutes plus tard, à peine calmée, Lorna frappait à la porte du commissaire Schiaffri, qui lui ouvrit et la fit asseoir. « Mademoiselle Vajda, j'ai entendu parler de vous. Je sais que vous n'êtes pas du genre à vous soumettre aisément à l'autorité. Vous y viendrez comme tout le monde. Mais je ne vous ai pas convoqué pour cela, mais pour une affaire très grave. » Lorna comprit que sa nuit câline avec Margelin avait fait le tour du commissariat. Elle tenta l'impossible. « Je peux m'en expliquer, commissaire. »« Vous expliquez sur quoi ?» Sur la nuit de vendredi à samedi et mes rapports avec l'inspecteur Margelin. » Le commissaire fronça les yeux et sa bouche s'effondra un peu plus. Il se leva en posant ses 2 poings sur son bureau. « Je me contrefous de vos histoires avec Margelin. Dès l'instant où ça ne nuit pas au service, et ça je le vérifierai par moi-même. Écoutez-moi bien, mademoiselle Vajda. » Lorna comprit qu'elle aurait mieux fait de se taire. C'était sans doute la première leçon qu'elle prenait aujourd'hui. Schiaffri reprit. « J'ai entendu parler de vos enquêtes, disons, horizontales, pour rester poli. Vous êtes efficace, certes, mais vos méthodes ne m'agréent pas, mais pas du tout. Vous êtes une fonctionnaire de l'État, pas une intrigante. » Il se tut en se rasseyant, puis esquissa un sourire. Gros travail de mime le concernant. « Il y a eu un meurtre au Vatican. »«
Au Vatican ?»«
Au Vatican !» La jeune femme, qui n'était pas de bonne humeur, faillit lâcher un « je m'en tape grave » retentissant, mais se retint. « Ah, c'est très intéressant, monsieur le commissaire, mais en quoi cela me concerne-t-il »
« Un jeune prêtre, le padre Paolo Ghizzero, nouvellement entré au service de la papauté, a été retrouvé mort, empoisonné.
»« Excédostie ?»«
Arsenic, une vieille tradition. »
Or, mon homologue romain a cru bon de pratiquer une vérification d'identité par analyse de l'ADN de Ghizzero.
Et ?
Eh bien, ce n'était pas Paolo Ghizzero, qui a bien pris le train à la gare proche de son diocèse de Sienne, mais n'est jamais arrivé dans la capitale pontificale. C'est un homme recensé dans le fichier, un homme que vous connaissez mieux que tout le monde, je pense.
Moi ?
Oui, vous ? Les Italiens qui avaient passé une nuit ou plus avec elle défilèrent dans la tête de Lorna. Il y en avait beaucoup. Elle avait même appris la langue de Dante au lit. Elle resta silencieuse, échaudée par son précédent couac. Le commissaire enchaîna. « Il s'appelle Luca Mazzotti, et je crois d'après le dossier que vous l'avez approché d'assez près. »«
Putain, Mazzotti, il est clamsé l'enflure. »«
Pardon ? Diable, Mazzotti a trouvé la mort, le pauvre. » Comme vous dites. Aussi, vous avez une journée pour faire vos bagages et partir pour l'Italie enquêter sur la mort de ce quidam fiché au grand banditisme. Que faisait-il au Vatican ? Qui l'a éliminé et pourquoi ?
Un peu assommée, Lorna se dirigea vers la porte. On ne discutait pas un tel ordre. Schiaffri la rappela au moment de sortir.
« Ah, Vajda, je vous adjoins l'inspecteur Glossu. »
Ce fut comme si le ciel tombait sur la tête de Lorna.
« Non, pas Glossu, s'il vous plaît. »
Et pourquoi pas Glossu ? C'est un excellent élément, il baragouine l'italien, n'est pas marié, n'a pas d'enfant, et par conséquent est relativement libre, comme vous-même, pour ce type de mission.
Mais Glossu, comment dire, il est... Ce sera Glossu et personne d'autre.
Bonne mission, mademoiselle Vajda, et au rapport tous les jours, merci. Pierre-Paul Glossu, autant vous le présenter d'entrée. Lorna ira dans le commissariat, hébétée. Partir enquêter chez les évêques du Vatican, c'était déjà pas une sinécure. Mais y aller avec Glossu, c'était la GN. Glossu était au glamour, ce que Marguerite Duras est à la blague de comptoir. En règle générale, elle faisait tout pour éviter Glossu dans les couloirs de la maison. C'était un antidote à l'amour, au désir, à la libido et à la création divine. Presque la preuve que Dieu n'existait pas ou qu'il était myope. Vers 10 heures... elle le vit sortir de son bureau.
Diantre, 10 heures.
C'était l'heure de la première mousse chez Saphir, le troquet qui jouxtait le commissariat et dont Glossu était une sorte d'actionnaire prioritaire. Le mec devait mesurer dans les 1,90 m, aussi grand que gras et même un brin adipeux. Il se déplaçait comme une armoire normande qui aurait eu des pattes et bousculait avec la légèreté d'un 35 tonnes ce qui se trouvait sur son passage. Sa tête, quant à elle, était parfaitement rectangulaire, prolongée par une coupe en brosse d'un roux clair. Petits yeux vitreux, nez moult fois cassé et mal réparé, surplombant une bouche aux larges lèvres humides, complétait le portrait. Mais l'apparence de Glossu n'était rien à côté du reste de sa riche personnalité. Lorsqu'il vit Lorna ce matin-là, il sourit largement, découvrant une dentition devant plus au hasard qu'au dentiste.
« Alors, princesse, pareil qu'on se casse au charbon chez la curtaille rétale. Tu vas pouvoir dandiner du derche, ça va pas te rapporter bézef. Pareil qu'ils sont plutôt de la jaquette, les enrobés. Par contre, ils ont des petits pinards de derrière les mitres qui sont pas dégueulasses, à ce qu'on dit. »
Il s'éloignait quand il se ravisa.
« Fais pas cette tronche de communiante qui pète. Je sais que t'aurais préféré barrer avec le playboy du troisième, mais c'est râpé. Alors, contre mauvaise fortune, beau cul. » Allez, 8 plombes demain sur le tarmac. Nous fais pas la nuit d'amour, Cléopâtre, une tisane et au pieu.
Lorna regarda s'éloigner l'armoire à glace et se laissa choir au sol en glissant le long du mur, sans force et sans volonté. Ce con avait raison. Il fallait préparer la valise, prévenir les amis, les parents, les voisins, les amants, les amantes et maman. Cette maman qu'elle n'avait pas vue depuis une éternité, mais avec qui elle gardait le lien par... hypocrisie, sans doute. Par amour, sûrement pas. Elle rentra donc à la maison en traînant les pieds et commença à téléphoner à tout ce beau monde et à sa mère, à Nevers, qui lui fit la grande scène du chien abandonné sur le bord de l'autoroute. « Mais non, je te jure que c'est un ordre. Je ne peux pas refuser. Non, je ne passe pas par Nevers, c'est direct. Oui, je prends la crème solaire. Non, je ne pars pas avec François. Je ne suis plus avec François depuis 5 ans, maman. Oui, c'était un homme bien pour moi. Mais non, 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 je ne suis pas enceinte. Oui, désolée de ne pas te faire de petit-fils comme Nicole. Oui, ma sœur est formidable, etc., etc. » Le seul fait de prononcer « Nevers » lui filait le dégoût. Nevers, toute son enfance, son adolescence. Ville habitée par les souvenirs de curés, de nonnes, de Bernadettes, de ducs oubliés. Pas une rue qui ne porte le nom d'un saint ou d'un évêque. La ville était aussi morte que la religion, que l'on avait maintenue par habitude et survivait dans le respect des vieilles pierres usées par le vent de l'histoire. Elle n'y retournerait certainement jamais, pensa-t-elle. Ensuite vint l'épreuve de la valise. Quel accoutrement pour se rendre chez le pape! Pas de jupe au-dessus du genou, pas de décolleté, pas de talons. Bah, ça limitait sacrement la garde-robe. Lorna se rendit compte alors qu'elle avait investi plutôt en visant la boîte de nuit que la boîte à curé. Elle dut descendre 2 étages chez Ludivine Marchand, qui était aussi sexy qu'une saucisse de Strasbourg, mais faisait à peu près ses mensurations pour lui emprunter des fringues adéquates, sobres et horriblement moches. Il était 19h lorsqu'elle eut terminé les préparatifs du départ. Épuisée, elle s'allongea sur son lit et repensa à ce Luca Mazzotti. Elle l'avait connu dans le cadre d'une curieuse affaire, 5 ans auparavant. Une riche héritière avait été assassinée dans sa chambre d'hôtel à Paris d'une balle en pleine tête. L'enquête avait montré que son frère avait payé un tueur professionnel, le fameux Mazzotti, pour l'éliminer et régner seul sur son empire de production cinématographique. Afin de confondre le coupable, Lorna avait été contrainte de donner un peu de sa personne pour soutirer à Mazzotti l'identité de son commanditaire. Même s'il est connu que les confidences sur l'oreiller ne sont pas recevables dans un tribunal, ces petits secrets avaient permis aux procureurs et aux collègues de la criminelle de progresser dans leur enquête. Pour remercier Mazzotti de ce petit moment d'oubli, Lorna l'avait aidé discrètement à quitter la France. L'image du tueur à gages se faisait plus précise maintenant. C'était un beau gars, bien bâti, plutôt ombrageux et taiseux, mais ce calme apparent le rendait d'autant plus mystérieux. Lorna l'avait suivi jusqu'à un hôtel luxueux de Bruxelles, où il venait pour affaires, et avait joué la cliente esselée. Après 2 verres au bar, il avait rapidement compris que cette voyageuse cherchait à occuper ses nuits du mieux qu'elle le pouvait. Le souvenir de ce moment volé au temps lui provoqua une sensation de plaisir surprenante. Elle écarta les pans de sa chemise de nuit. Ses seins pointèrent dans la semi-pénombre de la chambre. Elle se souvenait être montée avec Mazzotti dans sa chambre et, sans même qu'il ne prononce un mot, elle avait senti qu'elle était prête à aller loin pour mener à bien sa mission. Elle s'était mise nue pendant qu'il la regardait, assis sur le lit. Elle avait dansé sur une musique imaginaire, puis avait rejoint le tueur. Lorna était nue maintenant. Ses doigts caressaient sa poitrine, jouant avec les tétons tendus. Elle aimait plus que tout exciter le bout de ses seins. Elle les pinçait, les malaxait, les tirait à l'extrême à mesure qu'ils devenaient plus fermes. Elle ne ressentait l'appel de son sexe que lorsque le haut de son corps avait obtenu satisfaction. Alors seulement, elle laissait vagabonder une main sur son ventre jusqu'à son intimité, qui s'ouvrait naturellement et se chargeait d'une mouille abondante. Mazzotti avait ôté sa chemise, ses chaussures, mais avait gardé son pantalon. C'est Lorna qui avait été fouillée dans le secret de sa braguette pour caresser une pine déjà chaude et tendue. Elle l'avait sortie de son antre et l'avait naturellement portée à sa bouche gloutonne. Il n'avait pas pris le temps des préliminaires et la jeune fille, chauffée à blanc, s'était empalée sur le sexe de l'homme d'un coup violent. Elle avait senti cette queue lui éveiller le désir et le goût des profondeurs incertaines. Elle était restée un long moment sans bouger, à déguster cet empalement merveilleux. La jolie fliquette avait écarté ses cuisses et caressait maintenant sa chatte enfiévrée. Elle geignait de plus en plus fort et ne pensait plus qu'à trouver son plaisir rapidement. Elle allait et venait sur ce sexe, se figeait soudain en pressant fort le doigt sur son clitoris, puis repartait dans sa danse intime. Elle maîtrisait tant son corps qu'elle savait exactement à quel moment les anges allaient murmurer à son oreille. Lorsqu'elle commença à remuer de la croupe sur les cuisses de son amant, elle sentit une vague qui venait du fond de son ventre et la ravageait de l'intérieur. Elle jouit sans doute plus rapidement qu'elle ne l'aurait désiré et griffa le dos de Mazzotti en hurlant son plaisir. Puis, connaissant le goût des hommes, elle se releva et prit dans sa bouche ce qui sortait de son corps pour avaler une semence douce-amère qui jaillit puissamment. À la pensée de ces jets de plaisir se répandant dans sa bouche, elle accéléra la caresse de sa main sur son cou trempé et jouit à la seconde en se trémouchant de bonheur dans un cri strident comme si elle était surprise de son propre orgasme. La nuit qui avait suivi ce doux moment d'amour avait été instructive pour Lorna, qui avait arraché des bribes de vie à ce monstre froid. Elle avait appris qu'il gagnait sa vie à faire perdre celle des autres et qu'il avait aussi une jeune héritière peu avant à Paris. Elle aurait pu partir, mais elle était restée la nuit entière et n'était partie qu'au matin, non sans avoir remis souvent le couvert. Lorna resta dans cette position de jouissance un long moment. Peut-être s'endormit-elle, puis elle se blottit sous sa couette avant de rêver au ciel romain. Lorsque Mazzotti se réveilla au petit jour, il se rendit compte qu'il avait trop parlé durant la nuit et sa maîtresse se mut en un dixième de seconde en ennemie. Mais de cela, Lorna ne voulait plus se souvenir. Enfin, pas maintenant. Eh bien voilà, c'était un premier extrait du Cave du Vatican écrit par Étienne Liebig et paru aux éditions La Musardine pour avoir un petit peu une idée des personnages principaux et le ton est donné, je crois. Alors, on va voir comment Lorna arrive à ses fins grâce à la séduction. Avançons un petit peu, mais pas beaucoup, on avance un tout petit peu plus dans le roman. Deuxième extrait du Cave du Vatican, écrit par Étienne Liebig, c'est parti. Federico Lucano, il cameriere. À 9h sonnante, et Dieu sait si 9h sonne, au clocher multiple de la principauté, Lorna ouvrait la porte d'un petit bureau que Monsignor Del Plano, sorte d'intendant général invisible, avait mis à la disposition de la police française. Glossu était resté en ville, il avait pour mission d'en apprendre un maximum sur la vie nocturne des habitants du lieu et d'enquêter sur le séjour romain de Mazzotti. Lorsque Lorna entra dans la pièce, un jeune homme était là, très jeune, très beau. Ses cheveux bouclés blonds tombaient sur ses frêles épaules. Peut-être avait-il 25 ans, mais il en paraissait 15, et ses yeux rieurs ajoutaient une touche plaisante à ce portrait d'adolescent gracile. La jeune femme s'assit en face de lui. « Je suis l'inspecteur Lorna Vajda. J'enquête sur la mort de M. Mazzotti que vous preniez pour un autre. Comment vous appelez-vous ?
Je me nomme Federico Lucano. Je suis cameriere ici, c'est-à-dire que je m'occupe du ménage, de l'entretien et du bon fonctionnement des appartements qui me sont confiés.
Cela ne vous dérange pas que notre conversation soit enregistrée ?
Du tout, madame, répondit le garçon d'une voix à peine perceptible.
Federico, racontez-moi la découverte du corps de Mazzotti.
Le padre Paolo commençait ses recherches le matin vers 8h et les poursuivait toute la journée, parfois tard dans la nuit.
Lorna interrompit le jeune homme, incrédule. Vous êtes en train de me dire que Mazzotti, enfin padre Paolo, restait en bibliothèque toute la journée ?
Oui, le padre était très rigoureux.
Bien, continuez, dit Lorna très largement surprise par ce nouveau trait de caractère de celui qu'elle avait connu uniquement passionné par les armes à feu et les petits culs des parisiennes.
Souvent le padre venait en soirée à l'office et se nourrissait ici pour pouvoir retourner travailler ensuite. Et ce soir-là, à 20h, il n'était pas là. Je suis donc descendue vers la salle des archives. Je n'ai pas l'autorisation d'entrer, bien sûr, mais j'ai appelé plusieurs fois. »
Federico se mit à mimer la scène, debout dans la pièce, les mains en porte-voix.
« Padre, padre, il est 20 h, j'ai une soupe chaude pour vous. Padre, padre !»
Qu'avez-vous fait alors, Federico ?
J'ai enfreint la règle et je me suis avancé dans les travées de la bibliothèque interdite. À la troisième table, dans une salle de côté, il y avait un grand désordre sur les bureaux de consultation.
Au sol, le jeune homme essuya quelques larmes. Padre Paolo était allongé, immobile.
J'ai appelé du secours, mais lorsque le père Giuseppe Filandro arriva, il était déjà trop tard. Dio mio, Dio mio!
Le jeune garçon se signa plusieurs fois, comme pour se faire pardonner de quelque chose, puis reprit.
« Monseigneur Del Plano a été très bon avec moi et ne m'a pas puni, bien que j'aie dépassé les limites de mon espace. »
Lorna eut envie de soupirer, mais se retint.
« Quand vous dites qu'il y avait un grand désordre sur la table, qu'entendez-vous exactement ?»« Tous les documents du padré étaient sans dessus-dessous, étalés, déchirés, et son petit carnet avait disparu. » Un livret d'une dizaine de centimètres, recouvert d'un cuir noir très joli, dans lequel Padre Paolo notait toutes ses recherches. Pour Lorna, un Mazzotti qui prend des notes de recherche sur un petit carnet noir était aussi incongru qu'un homme politique qui refuserait d'obéir à un lobby contre un voyage à Acapulco.
Elle résuma. Donc, vous me dites que le Padre Paolo, chercheur raffiné, lisait des vieux grimoires toute la journée et notait des détails dans un carnet ?
Federico sourit enfin. Non, le padre n'était pas un être raffiné. Il lui arrivait de monter très vite dans des colères folles et on sentait qu'il n'était pas habitué à rester enfermé, assis, des journées entières. Il était nerveux, il bougonnait et avait parfois besoin de marcher dans les couloirs. D'ailleurs, il ne respectait aucun protocole et bien souvent dépassait ses autorisations de déplacement.
« Je comprends. Il dépassait souvent la limite, » dit la jeune femme rêveuse avant de se reprendre. « On lui avait volé un document et on avait fouillé ses papiers, c'est cela ?»«
Oui. N'est-ce pas malheureux dans la maison de Dieu ? Comment le malin peut-il s'insinuer ainsi ?»«
C'est à se demander, en effet. Que s'est-il passé ensuite, cher Federico ?»«
J'ai touché le corps de ce pauvre padre. » Son visage était déformé et violacé. Il était déjà mort.
Était-il froid ?
Oh, Dio in cielo ! Il était ! Il était !
Le jeune homme se mit à trembler. Sa main fit un geste comme s'il reconstituait la scène.
Il était tiède.
Lorna regarda le plafond somptueux qu'elle n'avait pas encore remarqué. Il représentait des anges vus du dessous dans un ciel rougeoyant. Federico murmura entre deux sanglots.
Tiepello.
Qui est Tiepello ?
Le peintre qui a réalisé cette fresque, madame.
Ah, ok. Tiède à 20 h, la mort a dû intervenir vers 18 h. Il faudra que j'aille vérifier la température de la pièce.
C'est impossible. Vous n'aurez jamais l'agrément pour vous rendre en salle des archives.
Il faut être prêtre, chercheur et agréé par Monseigneur Del Plano lui-même.
Ouh, il commence sérieusement à me gonfler les ovaires, le Plano, là.
Federico se signa 4 fois avec une célérité de jongleur. La jeune femme reprit plus calmement.
« Bon, on verra ça. Qu'avez-vous fait alors, quand vous avez constaté que le padre était tiède ?»« J'ai hurlé et j'ai récité des prières, mais personne ne venait. Alors je suis allée chercher de l'aide. »«
Vous avez laissé le corps seul ?
Avais-je le choix ?»«
Oui, il existe aujourd'hui des engins que l'on appelle les téléphones portables. »
Federico regarda Lorna comme si elle sortait les jambes arquées de Sodome.
« Santa Maria Madre di Gesù !»
Le très saint père, en sa sainte grâce, que Dieu le protège, interdit ses engins dans l'enceinte de notre principauté.
« Ah ! Donc, vous êtes parti chercher du secours et... »«
J'ai trouvé des frères qui priaient à la chapelle San Giorgio. Ils ont accouru mais n'ont rien pu faire. » Père Filandro a fait porter le corps dans la Sainte Chapelle où nous avons prié 3 jours et 3 nuits au repos de son âme avant de l'enterrer.
Vous n'avez rien remarqué de bizarre depuis que ce Padre Paolo était dans les murs ?
Non, madame.
Depuis un instant, Lorna avait remarqué que le petit cameriere avait tendance à poser ses yeux d'ange sur sa poitrine, qu'elle avait pourtant pieusement enveloppé d'un corsage et d'une veste qui ne laissait même pas deviner le début d'un décolleté. Elle le tutoya comme on le fait avec un gosse. « Que regardes-tu avec tant d'insistance, mon petit Federico ?»«
Rien, madame. »«
Tu ne regarderais pas mes seins, des fois ?»«
Tu sais, c'est un peu normal de regarder la poitrine d'une dame. »«
C'est humain. Tu as déjà vu une femme nue ?» Federico se pinça la lèvre inférieure en rougissant. Ses yeux papillonnèrent et devinrent presque blancs à force de regarder le plafond. Il souffla une réponse à peine audible après quelques secondes d'horreur.
« Juste ici, les fresques. »«
Juste ici, les fresques ?» Avec une mimique plus proche de la grimace du coureur de fond qui voit qu'il reste encore un tour de piste que de la sainte qui découvre qu'elle a une fente sous les poils, le jeune garçon lâcha un
« Oui »
gêné et désuet. Lorna lui prit les mains et, tentant de saisir son regard, parla comme dans un confessionnal.
Mes seins sont comme deux belles oranges d'hiver, un peu ovales. La peau en est souple et douce. Ils bougent avec grâce et lenteur. Ils suivent mes mouvements, mais restent fermes. Ils tiennent dans une main d'homme comme la tienne, Federico. J'aime les regarder dans un miroir, les voir pointer fièrement comme s'ils voulaient transpercer tous mes corsages. Le bout de mes seins est rose pâle. Il est assez large et dessine un cercle parfait. Souvent, je les caresse dessus, dessous, et le téton se tend doucement. Je le malaxe entre mes doigts et il durcit et bande jusqu'à ressembler à la tétine d'un biberon.
Lorna se tut. Federico avait fermé les yeux et son esprit vagabondait dans le soutien-gorge de la jeune femme qui souriait et serrait les mains humides du jeune homme. Elle lui caressa la cuisse amicalement et se leva soudain.
« Voilà, mon petit Federico. Un jour, peut-être, je te montrerai tout cela. Mais il faudra être un peu plus causant, mon garçon, car là, je n'ai pas appris grand-chose sur la grande maison. »
Elle laissa un silence de quelques secondes et ajouta.
« Nous sommes appelés à nous revoir, n'est-ce pas ?»
Le cameriere, tout tremblant, sortit sans même jeter un œil sur Lorna, qui, assez fière de son effet, était bien persuadée de s'être fait là un allié pour l'avenir. Voilà un petit exemple, une petite démonstration des méthodes pas très orthodoxes de Lorna pour obtenir toutes les informations qu'elle veut. Et croyez-moi, le Federico, ça va devenir un allié pour la vie. Effectivement, il va être d'une immense aide dans l'enquête qui va permettre de déterminer ce que faisait Mazzuti, pourquoi il avait pris la place d'un prêtre, qui l'a assassiné, pourquoi, qu'est-ce, comment, etc. Pour tout savoir, eh bien, vous n'avez plus qu'à lire Le cave du Vatican de Étienne Liebig, paru aux éditions La Musardine. Alors, pour vous le procurer, c'est dans toutes les bonnes librairies. Sinon, sur le site des éditions La Musardine, lamusardine.com. Eh bien voilà, cette lecture érotique est terminée. La suite, ça sera dans une quinzaine de jours, c'est le rythme d'été. Pour retrouver tous les précédents podcasts, eh bien rendez-vous sur mon site charlie-liveshow.com. Vous pouvez reprendre une activité normale et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.